Éthique, Père Philippe, 22 mai 84, Saint-Joseph.
La dernière fois, vous avez soulevé le problème que l'adoration est ce qui nous libère le plus. Je suis encore d'accord. L'adoration est source de libération au sens très fort, c'est-à-dire que nous liant à la source de notre être, l'adoration nous met dans un au-delà de notre conditionnement. Pouvez-vous expliciter comment l'adoration religieuse donne un nouveau statut à la liberté? N'est-ce pas ce problème qui est au cœur de tout athéisme? Au cœur de tout athéisme, c'est de considérer que l'adoration ou l'attitude religieuse est une aliénation. Or, l'adoration est l'inverse d'une aliénation. À ce point de vue-là, c'est très vrai. Il y a deux positions totalement différentes, parce qu'il y a deux conceptions totalement différentes de ce que c'est que l'attitude religieuse. Alors, je vais y revenir. N'y aurait-il pas un parallèle à faire entre les différents statuts de liberté représentés par Abraham pour l'éthique religieuse, Socrate pour l'éthique humaine et religieuse? Socrate est religieux. Il obéit à une voix intérieure. Le Christ pour l'éthique chrétienne. Je mettrais plutôt, vous voyez, plutôt que Socrate, je mettrais Aristote. Aristote fait une éthique humaine. On ne peut pas nier l'éthique à Nicomaque. Ce n'est pas une éthique religieuse, c'est une éthique humaine. Et Abraham ou Socrate pour une éthique religieuse. Chez Socrate, il y a une éthique religieuse. Socrate meurt par fidélité à ses voies intérieures. Ça peut être plus religieux que ça. Au point de vue humain, au point de vue de la prudence, on aurait pris autrement. Hein. C'est fini. Tandis qu'il meurt pour ça. Donc c'est vraiment une morale religieuse, une éthique religieuse. Connais-toi toi-même sous l'inspiration de l'exigence religieuse. Alors connais-toi toi-même, ça peut être le fondement de l'éthique humaine et de l'éthique religieuse, c'est très vrai, mais il y a quelque chose d'autre. Alors, on va essayer de comprendre ça rapidement, mais c'est important. De toute façon, je comptais revenir à cette question de l'adoration en voyant comment en éthique religieuse l'adoration va aboutir à la contemplation. Vous voyez, je crois que c'est ça qu'il faut saisir. L'éthique religieuse se termine dans la contemplation, tandis que l'éthique humaine se termine dans l'amitié. L'amour d'amitié finalise l'éthique humaine, la contemplation finalise l'éthique religieuse. Et l'éthique chrétienne est finalisée par la sainteté. Ben, on ne va pas le voir maintenant, mais on le verra quand même, parce que c'est quand même important. Alors, mais c'est pour que vous voyez tout de suite. Donc, il faut comprendre que l'adoration, telle que nous essayons de la comprendre dans une philosophie réaliste, c'est reconnaître notre totale dépendance dans l'ordre de l'être à l'égard de celui qui est le Créateur. Reconnaître cette totale dépendance et reconnaître que la créature ne peut pas être rivale de Dieu. Parce que la créature reçoit tout de Dieu. Tout son être, toute sa vie, toute son intelligence. Elle reçoit tout de Dieu. reconnaître donc qu'elle est dans cette totale dépendance, et cependant que Dieu veut que cette créature raisonnable, spirituelle, qui est l'homme, soit capable d'autonomie. Qu'il se meut, et non seulement qu'il se meut, mais qu'il est capable de s'orienter lui-même librement vers cet amour profond qui l'unit à son Créateur. Et qu'il est libre dans cette adoration. Donc qu'il a une autonomie fondamentale à l'égard de ce retour vers Dieu. Vous voyez, dépendance dans le fait qu'il reçoit tout du côté de la causalité efficiente. Liberté du côté de la causalité finale. Dans le retour vers Dieu, dans ce retour vers Dieu, donc cet amour profond vers Dieu, il est totalement libre. Il peut refuser. Et dans la mesure où il reconnaît cette dépendance, il découvre que cette dépendance fonde son autonomie et donc lui donne une liberté d'un caractère unique qui est une liberté à l'égard de cet amour qu'il a pour son Créateur, qu'il a pour son Père. Et donc il est lié à lui dans une liberté provenant d'un amour. Alors, à ce moment-là, il découvre bien un statut nouveau de liberté. La liberté la plus fondamentale, c'est la liberté religieuse. Ça qui est important à saisir. La liberté la plus fondamentale, c'est la liberté religieuse. Il y a une liberté au niveau artistique, il y a une liberté au niveau de l'amour d'amitié, et puis il y a une liberté religieuse. Et ces libertés sont des modalités différentes de la liberté. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Et la liberté la plus fondamentale, c'est la liberté religieuse. Je réponds librement à l'amour de Dieu. Et répondant librement à l'amour de Dieu, je découvre en moi mon autonomie fondamentale qui provient de mon intelligence, qui est fondée sur mon intelligence et qui se réalise dans cette bonne volonté. Et c'est le propre de l'adoration. L'adoration est un acte libre. Un acte religieux est libre. Et en adorant, je sais que j'aime librement Dieu. Et que je reconnais ma totale dépendance à l'égard de Dieu et que je l'aime librement. Donc c'est bien dans l'adoration que je découvre cette liberté religieuse dans ce qu'elle a de plus fondamental. Et cette liberté me libère de toutes les autres limites. Puisque c'est Dieu dont je dépends radicalement. Et toutes les autres dépendances sont secondaires et soumises à celle-là. Et donc, on peut dire que l'adoration me libère de toutes les autres limites, de tous les autres conditionnements pour me faire découvrir ma véritable finalité. Ma finalité, c'est d'aimer celui qui est mon Créateur. Puisque je dépends totalement de lui et je reçois tout de lui. Et donc, c'est de l'aimer librement. Et je découvre cette liberté intérieure. Donc, on peut dire, et sous ce point de vue-là, que l'adoration religieuse donne un nouveau statut à la liberté, c'est le statut de la créature spirituelle. C'est le statut de la créature spirituelle. Ce n'est plus l'homme comme tel, mais c'est la créature spirituelle. Qui, par le fait même, est toute relative à son Créateur, mais relative dans une autonomie, c'est-à-dire dans une liberté. Et relative dans une liberté. Donc, ce n'est pas du tout une aliénation, c'est juste l'inverse de l'aliénation. L'aliénation sera la caricature, lorsqu'on dira que l'attitude religieuse aliène, c'est parce qu'on en voit que la caricature. On considère que la dépendance à l'égard de Dieu est analogue à la dépendance à l'égard d'une autre créature. Être totalement dépendant d'une autre créature, c'est une aliénation. Être totalement dépendant d'une source qui donne tout en surabondance et d'une façon absolument libérale, ce n'est plus une dépendance. C'est au contraire découvrir en nous ce qu'il y a de tout à fait original, de tout à fait fondamental, notre autonomie spirituelle, qui va s'exercer de cette manière première que je peux refuser d'adorer. Et je peux au contraire accepter d'adorer. En refusant d'adorer, je me mets dans une attitude de révolte. Et en acceptant d'adorer, je me mets dans une attitude de réceptivité à l'égard de Dieu. Et donc d'agrandissement spirituel. Je m'agrandis spirituel, je m'ouvre à la volonté souveraine de Dieu. Donc il y a une ouverture profonde qui se fait dans cette attitude-là. Dans cette attitude de l'adoration spirituelle. Donc, vous voyez comment nous pouvons préciser cette parole que je vous ai déjà cité, et c'est pas étonnant, de Plotin. Accepter la dépendance à l'égard d'un être inférieur à nous, c'est une limitation, donc disons aliénation. Accepter la dépendance à l'égard d'un être qui est supérieur à nous, c'est une libération. La vraie théologie de la libération serait la théologie de l'adoration. Évidemment, les théologiens de la théologie de la libération ne sont pas tout à fait d'accord. Mais au fond, c'est la vraie théologie de la libération. Ça ne peut être que par l'adoration. Il n'y a pas d'autre libération fondamentale que celle-là. Les autres, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des conditionnements humains qui me limitent. Alors je peux faire une théologie de la justice. Mais la théologie de la justice n'est pas du tout une libération. C'est de reconnaître qu'il y a des droits à côté de moi et que j'ai des droits. Donc c'est réciproque. Dans la mesure où je fais appel à mes droits, je sais que mon voisin fera appel à ses droits. Immédiatement, il n'y a rien de tel pour faire appel, pour réveiller le voisin avec ses droits. Je vais jusque-là, j'ai le droit. Vous savez, le fauteuil quand on est très serré les uns à côté des autres. Alors, très bien, si vous êtes à côté d'un gros bonhomme énorme dans le TGV, n'est-ce pas, il déborde. Vous avez beau secouer un tout petit peu, reprendre vos droits, dire, j'ai le droit d'aller jusque-là, ça va gonfler et vous êtes bien obligé d'être vaincu, c'est évident. Si au contraire vous amaigrissez, vous d'un certain temps, il comprendra et lui-même fera un effort de s'amaigrir. Vous voyez, théologie de la libération. Autrement, vous affirmez vos droits. Alors, c'est la théologie de la justice qui n'est pas une théologie de la libération. La théologie de la libération, c'est par rapport à Dieu. C'est pas par rapport à l'homme. Je ne serai jamais totalement libéré à l'égard de l'homme. Jamais. C'est impossible. Parce que je dois reconnaître qu'il a des droits qui sont semblables aux miens. Dès que je reconnais qu'il a des droits semblables aux miens, je suis obligé d'accepter qu'il y a nécessairement une coopération. La théologie de la coopération, ce n'est pas la théologie de la libération. La seule théologie de la libération possible, c'est le mystère de l'adoration. Ça, il faut le comprendre, hein, parce que c'est très important de ne pas fausser les problèmes. Une théologie de la justice n'est pas une théologie de la libération. C'est une théologie de la coopération. Très important, une coopération libre, une coopération par mode de contrat, une coopération par de la loi naturelle qu'on respecte, et ainsi de suite. Mais c'est une théologie de la coopération dans la lumière de la justice. Alors que la théologie de la libération, c'est une théologie qui ne peut regarder que Dieu. et ne peut se faire qu'à partir de l'adoration. Dieu seul peut nous libérer radicalement. Jamais un homme ne pourra nous libérer radicalement. Un homme pourra simplement nous laisser suffisamment de place pour qu'on puisse s'asseoir, pour qu'on puisse se reposer. Il ne sera pas plus droit que cela. Et puis, il coopérera avec nous. Et quand il aura coopéré avec nous, il y aura une justice distributive qui consistera à bien partager le fruit du labeur selon que l'un a travaillé plus que l'autre, que l'un est plus intelligent que l'autre et moins intelligent, mais l'autre a donné plus de force et plus d'efficacité, et ainsi de suite. Alors, ce sera la justice distributive. Mais ce n'est pas une libération. La justice distributive, c'est une coopération. Et alors, vous pourrez voir, avec quelqu'un, ça ira très bien. Ah, je vois qu'avec toi, on peut coopérer. On recommencera. Avec un autre, on dira, ah, c'est impossible de coopérer avec toi, c'est impossible. Je me fais avoir chaque fois. Donc, c'est impossible. Donc, c'est vraiment la dernière fois. Donc, vous ne coopérerez plus. Parce que vous voyez, vous laissez avoir. Donc, il y a une théologie de la justice, qui est une théologie de la coopération. Puis une théologie de la libération, qui est une théologie de l'adoration. Réfléchissez à ça, parce que c'est quand même important, ce sont des problèmes très actuels. Alors, voyez, le parallèle, c'est de voir que, au niveau de l'éthique humaine, justice, au niveau de l'éthique religieuse, adoration, au niveau de l'éthique chrétienne, l'amour, d'amitié, la sainteté. On va voir ça progressivement, mais c'est très, très important. À propos de la manière dont on se libère de notre conditionnement, la manière la plus élégante de se libérer de son conditionnement au niveau humain, c'est de respecter la justice. C'est la seule manière d'être libre. Justice commutative, justice distributive, justice légale. Sauf au moment où vous apercevez qu'une loi est illégale, à ce moment-là, vous avez le devoir de ne pas obéir. Parce que si vous mettez le petit doigt dans l'engrenage, c'est fini. C'est ça qui est très, très curieux, mais c'est un devoir. Hein. Parce que se soumettre à une loi illégale, vous voyez, se soumettre à une loi illégale, quand on est encore libre, hein, quand on n'est pas libre, on ne se soumet pas. On est tyrannisé, c'est tout. Très bien. Parce qu'on sait que si on va passer à côté, il y aura un fusil qui vous tirera dessus. Alors, sauf qui peut à ce moment-là. C'est pas se soumettre. Se soumettre à une loi illégale, c'est coopérer. Et donc, c'est empêcher les hommes de résister. C'est une très grave question qui se pose très vite à nous, hein, et qui vont se poser très vite. La justice légale, c'est se soumettre à une loi légale. Une loi qui n'est plus légale, eh bien, ne demande pas la soumission. Ça, c'est de la politique. Hein. Alors, continuons notre éthique religieuse en voyant comment l'adoration demande d'aller jusqu'à la contemplation. Autant qu'il est possible à un homme de contempler aujourd'hui. Alors, quand je dis qu'Aristote, c'est l'éthique humaine, c'est vrai, mais l'éthique d'Aristote se termine dans une éthique religieuse. Je ne peux pas dire que l'éthique à Nicomaque est uniquement une éthique humaine. Je peux dire que c'est une éthique humaine, mais c'est une éthique humaine qui s'achève dans une éthique religieuse. Vous voyez, il y aurait ceci à faire en parallèle, qui serait très intéressant, je crois, toujours à essayer de comprendre ces parallélismes dans la philosophie d'Aristote. Quand je suis au niveau de la philosophie spéculative, au sommet de la philosophie première, celle-ci implique une analyse qu'on appelle métaphysique, puis elle implique une sagesse, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Comment la philosophie première est à la fois fois l'analyse de ce qui est en tant qu'être, et puis implique une sagesse, la découverte de l'être premier. Et tout ça fait partie de la philosophie première. Bien, je crois qu'on a, au niveau de la philosophie pratique, on pourrait dire qu'on a une éthique, comprenez bien, une éthique humaine, justice, amitié. Oui, c'est pour ça que la justice, je disais tout à l'heure, la théologie de la libération, vous voyez, c'est justice et amitié. Et puis, l'aspect contemplation. Je crois qu'on peut mettre un parallélisme entre les deux. L'éthique d'Aristote implique deux dimensions, un aspect d'éthique humaine avec les vertus, et puis un aspect ultime, analogue à la sagesse, qui est la contemplation. Et puis un troisième aspect, c'est l'éthique politique. Et vous comprenez que la contemplation est au-delà de l'éthique politique, tandis que l'éthique humaine va impliquer un aspect politique. C'est pour mieux comprendre, mieux saisir certains parallélismes délicats et difficiles. Alors, surtout, ne mettez pas univocité. Hein. Comprenez que c'est analogue. Hein. Il y a quelque chose d'analogue. La métaphysique et la science de ce qui est en tant qu'être. Et cette science s'achève en une sagesse. Et cette sagesse comme objet ultime, Dieu. Elle applique Dieu pour sa sagesse. Donc il y a deux moments. Il y a une analyse métaphysique de ce qui est en tant qu'être. Puis il y a une sagesse. Dès que je découvre l'existence de l'être premier, je suis en face de quelque chose de nouveau. Ce n'est plus, au sens strict, la métaphysique. C'est la métaphysique devenue sagesse. En éthique, l'éthique à Nicomaque, il y a l'éthique humaine qui s'achève par l'amitié, qui implique les vertus. Et puis il y a l'éthique religieuse. Aristote ne dit pas éthique religieuse, mais il y a l'éthique qui s'achève en contemplation. C'est vrai, l'éthique s'achève en contemplation. L'éthique humaine demande de s'achever en contemplation. Comme la métaphysique demande de s'achever en sagesse. Pour regarder l'être premier. Alors, la question, c'est de savoir, voyez, si la sagesse est encore science. L'analyse métaphysique est science. Puisque je saisis des principes propres. Alors, la sagesse est-elle encore science? Si elle n'est plus science, elle est contemplative. Et comme ma contemplation implique quand même un certain raisonnement, il peut y avoir à l'intérieur de la sagesse un aspect science. Mais la sagesse s'achève en contemplation. Ça, c'est la vie de la sagesse. La réflexion sur la sagesse implique un aspect scientifique. Recherche des causes. La cause ici, évidemment, c'est d'une certaine manière, vous voyez, c'est la cause ultime, première, mais comme je ne la saisis pas, je ne saisis pas le quid de Dieu. Alors, qu'est-ce que je saisis? S'il y a science, qu'est-ce que je saisis? Je saisis ce qu'on appelait les attributs de Dieu, le comment de l'existence de Dieu, la manière dont Dieu existe. Je peux saisir la simplicité de l'être premier, je peux saisir la perfection de l'être premier. Et à partir de là, il peut y avoir un certain raisonnement qui n'est plus uniquement scientifique, qui est un raisonnement de sagesse, où je précise la manière d'exister de l'être premier. L'aspect science. Et ça existe même au niveau purement philosophie naturelle. Ça existe dans Saint Thomas, en théologie, mais ça peut exister en philosophie proprement du moins en sagesse humaine, en sagesse philosophique. Ça, c'est un autre problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce passage de l'éthique humaine à l'éthique religieuse, et je dis que l'éthique religieuse s'achève en contemplation. C'est le problème de la contemplation. Cette contemplation n'est possible que par l'adoration. S'il n'y a pas adoration, il ne peut pas y avoir contemplation. Alors ça, j'explicite par Aristote le dit. Je crois qu'on doit l'expliciter. Aristote ne le dit pas. Aristote parle tout de suite de la contemplation. Il ne parle pas de l'adoration. Il parle de la prière en politique, mais en éthique, il ne dit pas. Ça serait intéressant de savoir pourquoi il ne dit pas. Parce qu'il me semble que si je veux repenser une éthique proprement religieuse, qui s'achève en contemplation, je vois bien que le premier moment de l'éthique religieuse, c'est l'adoration. Et je vois que l'ultime moment de l'éthique religieuse, c'est la contemplation. Il y a donc un lien entre le point de départ et le terme. Mais ce n'est pas la même chose. L'adoration est avant tout un acte religieux. Je veux adorer. Et quand vous dites « je veux contempler », donc je contemple. Je peux dire « je veux adorer, donc j'adore ». Est-ce que vous avez le droit de dire « je veux contempler, donc je contemple » ? Non. Très curieux. Tandis que vous pouvez dire « je veux adorer, donc j'adore ». Et c'est vrai que quand vous voulez adorer, que votre volonté est efficace, et qu'elle fait tout ce qu'elle peut, vous adorez. Vous pouvez toujours adorer quand vous voulez. Vous ne pouvez pas contempler toujours quand vous voulez contempler. Tandis que quand je veux adorer, j'adore. C'est le point de départ, vous voyez, l'adoration. C'est pour ça que c'est si important de comprendre qu'est-ce que c'est que l'adoration. Par l'adoration, je me mets dans cette relation affective, aimant, volontaire à l'égard du Dieu créateur. Je me mets dans cette relation. L'éthique religieuse commence avec l'adoration. Cette adoration implique donc l'acceptation, et c'est ça qui est important, d'un amour fondamental, un amour spirituel, un amour radical, quand je dis fondamental, je dis radical, de la créature à l'égard du Créateur. C'est cet appétit spirituel, cet appétit de la partie à l'égard du tout. Cet appétit spirituel naturel. La partie aime nécessairement son tout. Et quand la partie se révolte contre son tout, c'est la destruction de la partie. Or, la créature se découvre comme une partie à l'égard du Créateur qui est tout. Et donc, il y a un amour naturel profond à l'égard du Créateur. Et cet amour naturel, spirituel, radical de la créature à l'égard du Créateur, il est accepté, pleinement accepté dans l'adoration. Et c'est en acceptant cet amour que j'adore, parce que je m'offre entièrement au bon plaisir du Créateur sur moi. Je me remets entre ses mains, in manus tuas. J'ai tout à fait le droit de prendre cette expression-là, même en éthique religieuse. Le propre de l'éthique religieuse, c'est de se remettre dans les mains de Dieu. Et de considérer que c'est lui qui a tous les droits sur moi. Et je n'ai aucun droit à l'égard de lui. C'est pour ça que je me soumets dans l'adoration. Ceci, c'est volontaire, c'est fondamental et premier. cet amour qui me relie au Créateur peut être aussi source d'une nouvelle relation vis-à-vis de mon Créateur. En tant que je découvre qu'il est Père, il est mon Créateur, mais il est mon Père. Et alors, à ce moment-là, cet amour que je découvre à l'égard de mon Créateur qui est mon Père, il est Père de mon esprit. Il est Père de ma vie. Je me demande, à partir de cet amour, si je peux le contempler, si je peux le regarder. Cette relation d'adoration qui me soumet à lui, qui me met dans cet état de dépendance vis-à-vis de lui, cette attitude d'adoration peut-elle s'achever dans un regard d'amour? Est-ce que je peux le regarder? Est-ce que je peux le contempler? Regarder Dieu, c'est le contempler. Est-ce que je suis capable de pouvoir m'élever? Et je passe au niveau proprement extérieur, au point de vue de l'adoration, où je suis soumis et totalement soumis à lui dans une relation de regard. Je me tiens debout en face de mon Dieu, de mon Créateur. Et la prostration est debout. Ça, c'est l'extérieur. Hein. Mais c'est intéressant à voir le changement qui existe entre les deux attitudes. Eh bien, il faut se poser la question. Vous vous posez la question avec le plus de précision possible. Ayant adorant le Dieu créateur, mon Dieu créateur, adorant mon Père, je me pose la question, est-ce que je peux le regarder? Est-ce que je peux le contempler? Est-ce que mon intelligence humaine peut être portée par cet amour fondamentale pour que mon intelligence humaine s'ouvre à sa lumière, puisque Dieu est lumière, puisque Dieu est vérité. Peut-on contempler, regarder sa lumière et sa vérité? Puis-je être fasciné par sa lumière et sa vérité? Toute la question se pose ici maintenant, à l'intérieur de ce mouvement. Quelle connaissance puis-je avoir de l'être premier? Quelle connaissance puis-je avoir de celui que je considère comme mon créateur et la source de mon être? Je ne peux pas connaître ce qui est. Je sais que je ne peux pas le connaître, puisque je ne le vois pas. Je le vois à travers un voile. Le voile des créatures. Dieu se cache derrière les créatures. Donc je ne peux pas connaître ce qu'il est, mais je peux peut-être essayer de connaître comment il est. Connaître comment il est, c'est connaître sa manière d'exister. En tant que je le considère comme créateur. Sa manière d'exister me permet de découvrir qu'il est totalement différent de toutes les autres créatures. Il est simple. Il est parfait. Il est bon. Il est infini. Ça, je peux le dire. Au plan philosophique. Je peux le dire au plan philosophique. Vous voyez, là, je fais appel à toute la sagesse. Hein. Et vous voyez, la sagesse science, qui est une sagesse du comment. C'est donc une science qui est tout à fait particulière. C'est une science qui est très inférieure comme science. puisque je ne connais que le comment de Dieu. Très curieux. Les sciences modernes sont des sciences du comment. Mais du vivant, de l'homme religieux, de l'homme dans sa psychologie, dans ses opérations vitales, la psychologie, c'est les sciences du comment. Eh bien, la sagesse, c'est la science du comment de Dieu. Et dans cette science du comment de Dieu, dans cette sagesse du comment de Dieu, je vois qu'il y a une possibilité d'une certaine contemplation. Ce n'est pas Dieu en lui-même que je peux contempler, mais c'est le comment de Dieu que je peux contempler. Je ne peux pas le voir face à face, mais je le vois de dos. Mais je ne peux pas le voir face à face, mais je le vois de dos. C'est le comment de Dieu. Et alors à ce moment-là, je vois comment je peux avoir une certaine contemplation de Dieu. Je peux contempler sa simplicité. Je peux contempler sa perfection. Je peux contempler sa bonté. À partir des créatures, c'est-à-dire à partir de moi, qui est la créature la plus parfaite, c'est-à-dire à partir de l'homme, qui est la créature la plus parfaite, à partir de toute la complexité dans laquelle je suis, je peux découvrir la simplicité de Dieu. Petite lumière. À partir des limites de ma perfection, et cependant ma nostalgie de perfection, je peux contempler la perfection de Dieu. À partir des limites de ma bonté, et cependant ce qui est en moi de bon, je peux contempler la bonté de Dieu. À partir de mes limites, je contemple l'infini de Dieu, qui m'enveloppe et qui me porte. Pas de distance entre Dieu et nous. Je peux le dire, philosophiquement parlant. S'il n'y a pas de distance entre Dieu et nous, Dieu est immédiatement présent à tout ce que je suis. Je puis donc m'orienter vers lui et être dans cette attente de sa lumière. C'est une contemplation négative. Mais c'est quand même une contemplation parce qu'il y a une certaine imminence de la présence de Dieu. Donc ce n'est pas purement négatif. Et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir une contemplation. Une contemplation, c'est-à-dire un regard qui essaie de dépasser le voile, les réalités créées, pour découvrir au-delà de ces réalités créées la source de lumière, la source de simplicité, la source de perfection, où je découvre quelque chose de connaturel entre moi et l'être premier, et ce quelque chose de connaturel me permet de me fixer vers lui, de m'orienter vers lui. Vous voyez comment il peut y avoir une certaine contemplation naturelle de Dieu. Cette contemplation se prend en premier lieu des effets intérieurs qui sont en moi, plus que de la nature physique. Si je regarde les effets dans le monde physique, je m'orienterai plus vers une contemplation esthétique. Si je regarde plus les effets intérieurs de Dieu sur moi, je m'oriente vers une contemplation plus affective et plus aimante. Donc il y aura deux types de contemplation à l'égard de Dieu. Une contemplation plus esthétique et une contemplation plus intérieure. Et il est évident que la contemplation plus intérieure va aller plus loin, parce que les effets dont je me sers sont beaucoup plus spirituels. mais contempler Dieu à travers l'ordre de l'univers. C'est beau, mais c'est au fond très esthétique. Contempler Dieu à travers l'amour que j'ai pour mon ami, l'amour que j'ai de la recherche de la vérité, l'amour que j'ai même à l'égard de moi, en ce qu'il y a en moi de plus spirituel. C'est quelque chose qui me permet d'être plus proche de Dieu. Dieu est plus proche, si j'ose dire, si vous voulez, du côté de la vie de mon intelligence, de la vie de mon esprit, que du côté du monde physique. Et donc il y a une intériorité plus grande, je dis au point de vue contemplation, je ne dis pas au point de vue de l'être, mais au point de vue de la contemplation. Il y a donc une proximité plus grande du côté de cette contemplation intérieure. Mais il y a en même temps un danger plus grand, parce que quand je regarde la réalité physique qui existe, le danger c'est l'esthétique, de l'autre côté c'est le panthéisme. C'est de me perdre dans le tout. Vous voyez, c'est de confondre l'intentionnalité de mon amour et de ma recherche de la vérité avec Dieu lui-même. Alors à ce moment-là, c'est le panthéisme. C'est un panthéisme spirituel, c'est un panthéisme qui reviendrait à un certain hegelianisme. Je me contemplerai à travers, je contemplerai Dieu à travers l'intentionnalité. L'intentionnalité de ma démarche intellectuelle, de ma démarche surnaturelle, de ma démarche affective. Et je m'arrêterai à cette intentionnalité, donc dans l'immanence. Et je n'atteindrai absolument pas Dieu. Je tomberai dans une espèce de vision fausse. Il faut me servir de l'intentionnalité pour m'approcher le plus possible et dépasser cette intentionnalité, toujours par le principe de causalité. Vous voyez, je crois que par là nous pouvons saisir comment de l'adoration nous allons vers la contemplation. Et ceci, c'est l'éthique religieuse dans son mouvement le plus foncier. Je peux me poser maintenant la question, pouvons-nous contempler Dieu sans l'adoration? Oui. Autrement dit, pouvons-nous prétendre qu'il y a une contemplation purement spéculative de Dieu? Eh bien, je crois qu'on doit dire non. La contemplation de Dieu présuppose toujours l'amour, et donc présuppose toujours l'adoration, un amour vrai qui tend vers Dieu. Et c'est à l'intérieur de cet amour que je fais cette démarche ascendante vers lui pour le contempler. Je ne peux pas le contempler directement d'un point de vue spéculatif. Pourquoi? Parce que ma connaissance de Dieu au niveau purement spéculatif est extrêmement ténue. J'affirme l'existence de Dieu. Ça, spéculativement, j'affirme l'existence de Dieu. Je ne peux pas aller plus loin. Il faut l'amour pour permettre la contemplation. Et ceci est normal, hein, parce que toute réalité qui me dépasse et qui me mesure, je ne peux m'approcher d'elle qu'en l'aimant. Alors je peux être en connaturalité avec elle, et à ce moment-là, je puis essayer de contempler celui qui me dépasse complètement, celui qui est au-dessus de moi. Donc la contemplation va naître à partir de cet amour et dans cet amour. Et sans cet amour, il ne peut pas y avoir de contemplation au sens absolu. Et je crois que c'est cela que nous devons essayer de comprendre pour essayer de saisir ce que représente cette contemplation philosophique, cette contemplation religieuse, de la sagesse métaphysique. Je dirais contemplation de la sagesse métaphysique, mais religieuse. Religieuse qui me relie, qui me relie dans cet amour vis-à-vis de celui qui est mon Père, et que je contemple à travers ces différentes manières d'exister qui me permettent d'avoir une certaine lumière sur lui. Donc qui me permettent d'être le plus en connaturalité, la partie unie au tout, par le point de vue de l'adoration. Donc il y a là quelque chose de très spécial, très particulier, qui me permet de comprendre que cette contemplation n'est pas directe, n'est pas immédiate, elle est toujours médiatisée. Elle est médiatisée par les effets extérieurs, elle est médiatisée par les effets intérieurs. Les effets intérieurs, c'est-à-dire l'action de Dieu sur mon intelligence, l'action de Dieu sur ma volonté. Et je peux, à travers cette action de Dieu sur mon intelligence et ma volonté, découvrir cette source que je veux contempler, que je veux découvrir.